80e D-Day, 9 sites qui ont changé l'histoire.
Bonjour à tous, Tendance Ouest poursuit sa série de podcasts sur ces sites qui ont changé l'histoire. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Saint-Germain-la-Blancherbe, tout près de Caen et plus particulièrement son abbaye d'Ardennes, un site où la violence a régné depuis sa fondation au XIIe siècle et qui sera ensuite témoin d'un terrible crime de guerre dans la foulée du débarquement en Normandie. Un site depuis devenu lieu de culture en abritant l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Une bibliothèque d'archives dans l'église abbatiale, un auditorium dans l'ancienne grange, un jardin du souvenir canadien. C'est dans cette ambiance paisible que je rencontre Pierre Vallée, médiateur historique à l'IMEC. Il me plonge tout de suite dans le passé violent de cette abbaye.
Elle subit les affres de la guerre de Cent Ans et des baisses des revenus agricoles également. Elle est assiégée par deux fois. Le roi de France s'y installe également pour faire le siège de Caen. Elle subit également les guerres de religion. L'abbaye est pillée à ce moment-là, les statues sont décapitées.
Après la Révolution, les religieux sont chassés des lieux. Le territoire est morcelé en différentes parcelles utilisées principalement par des agriculteurs. C'est le cas de la famille Vico, très connue dans la commune. Elle y réside encore quand les Allemands occupent la Normandie.
À partir de 1143, la famille Vico s'engage dans la résistance. Ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons à la fois le père, Roland Vico, qui est en même temps maire de Saint-Germain-la-Blancherbe, qui va procurer des faux papiers à des jeunes de Saint-Germain pour leur éviter d'aller au service du travail obligatoire en Allemagne. Les enfants, dans le même temps, vont s'engager dans des formes de résistance différentes. Ils vont plutôt aller récupérer des armes parachutées par les Alliés dans la campagne aux alentours de Caen et organiser des stages de formation aux explosifs et de formation aux armes à des cadres de la résistance caennaise. Ce qui est assez étonnant et en même temps on le comprend assez rapidement, c'est que les enfants ne savent pas que leur père fait des faux papiers et les pères ne savent pas que les enfants vont récupérer des armes. On a une séparation des informations, on a une distinction à ce niveau-là.
Coup de théâtre en décembre 43, Roland Vico, le père, est dénoncé.
Dès qu'ils apprennent que leur père est arrêté, les enfants vont déménager les armes qu'ils entreposent dans l'abbaye par peur et à raison de la perquisition qui arrivera dès le lendemain. Donc en une nuit, ils déménagent les explosifs et les armes. On dit dans une cuisine de personnes âgées à la maladrerie, donc juste vers Caen. On raconte qu'il y avait assez d'armes pour que ça arrive jusqu'au cou du couple qui accueille les armes dans leur cuisine.
Délaissée par les Allemands, l'abbaye d'Ardennes revêt pourtant un véritable intérêt stratégique.
Ça peut paraître étonnant, mais on est sur un point culminant de la plaine de Caen. Si on ajoute les 70 mètres du terrain aux 26 mètres de l'église, on peut, paraît-il, par temps clair, ce qui arrive assez régulièrement en Normandie, voir la mer à 15 km d'ici, avec des très bonnes jumelles.
Un léger saut dans le temps, le 6 juin, les Alliés débarquent sur les plages et les Allemands réagissent.
Les 6 et 7 juin, nous avons les contre-attaques allemandes. Nous avons la 12e division de blindés, la Panzer de la Hitlerjugend, des troupes aguerries du front de l'Est, réputées pour leur sauvagerie, qui s'installent à l'abbaye d'Ardennes et qui vont réussir à encercler des troupes canadiennes à Oti et à les faire prisonniers.
C'est ensuite qu'un des crimes de guerre les plus sombres de la bataille de Normandie survient. Mais à ce moment, personne n'est au courant de ce qu'il se passe entre les murs de l'abbaye. Nous y revenons dans quelques instants et poursuivons le récit chronologique avec Pierre Vallée. Un mois plus tard, donc le 7 juillet, les Britanniques et Canadiens lancent l'opération Charnwood pour pénétrer définitivement dans Caen et reprendre la ville aux Allemands.
À ce moment-là, l'abbaye d'Ardennes effectivement est une forteresse au milieu de la plaine. Les Canadiens sont à Caen-en-Plaine, à 7-8 km d'ici. Partant le matin du 8 juillet, ils arrivent à Oti à 16h et il leur faudra 6 heures supplémentaires pour traverser le kilomètre et demi qui sépare Oti de l'abbaye d'Ardennes. On a le récit par un soldat canadien de la prise de l'abbaye et on comprend que c'est le chaos, que les fumigènes qui sont censés couvrir l'avancée des Canadiens les empêchent également de se repérer. Que des troupes disparaissent, que d'autres se retrouvent alors qu'elles ne sont pas censées être au même endroit. Mais à 22h, les troupes canadiennes arrivent au pied du mur de l'abbaye. Il faudra encore 2 heures supplémentaires pour prendre l'abbaye qui, à ce moment-là, est désertée par les Allemands qui ont préféré s'enfuir.
Les Allemands bombardent alors encore l'abbaye, mais finiront par être complètement chassés du secteur par les Alliés. La guerre se termine, Roland Vico revient sain et sauf en Normandie. La famille au complet peut retourner vivre chez elle. La suite, c'est Gabrielle Vico qui nous la raconte. Cette dame de 98 ans a épousé après la guerre Jacques Vico, héros qui a intégré la 2e DB du général Leclerc.
On parle souvent de coup de foudre, mais là, ça a vraiment été. Un coup de foudre, oui.
En septembre 44, un soldat canadien revient à l'abbaye. Il avait réussi à s'en échapper quand il était prisonnier des Allemands. Mais depuis, il n'a aucune nouvelle de ses camarades. 20 soldats sont portés disparus. Ils ne sont pas morts au combat et ne sont pas prisonniers.
La famille est alertée qu'ils sont disparus depuis ici. Donc il y a un jour, dans ce qu'on appelle le jardin des Canadiens, quand on arrive, il y a un marronnier, et au pied du marronnier, le plus jeune, Roland, me l'a fait voir à quel endroit il avait vu que la terre bougeait. Si ça se craquelle, si ça se bouge, c'est parce que il y a eu quelque chose. Alors, il a commencé à regarder, et il a aperçu un uniforme. Donc là, il n'a pas été plus loin. C'était bien un des 20 garçons. Donc c'était la preuve que du moment qu'il y en avait un, il y en avait certainement d'autres.
Et alors les découvertes de cadavres s'enchaînent.
Madame Vico, sur la pelouse centrale, elle avait semé des personnages qui fleurissaient tous les ans. Oui, c'est important, et c'est touchant l'histoire des personnages. Les personnages poussaient un peu n'importe où. Alors, elle dit ça a été bougé parce que elle savait comment elle les avait plantés. Donc ils ont regardé et c'est là qu'ils ont découvert le plus grand charnier. Il y en avait 4 ou 5. Et alors surtout, ils étaient mis dans la terre comme ça, ensemble, sans aucun respect.
Le 7 juin, 11 prisonniers de guerre canadiens sont froidement exécutés. 7 le sont le lendemain. Enfin, 2 autres soldats sont abattus probablement le 17 juin quand le front se stabilise. 20 au total. Le responsable de ces crimes de guerre est un officier SS du nom de Kurt Meyer. Lors de la débâcle allemande en Europe, il est arrêté par des résistants belges, puis jugé par une cour martiale canadienne pour répondre de ses actes. Pierre Vallée de l'IMEC.
Kurt Meyer va d'abord être condamné à mort. Puis il va arguer du fait qu'il n'était pas au courant, qu'il n'a jamais donné ses ordres d'exécution pour faire transformer sa peine en prison à perpétuité. Finalement, sa peine de prison va être raccourcie, il va être libéré au milieu des années 50, dans le cadre de rapprochement entre l'Allemagne et la France, notamment. Et il va revenir à l'abbaye d'Ardennes à plusieurs reprises. Il n'a pas forcément été bien accueilli, il est venu avec son fils. Son fils n'était pas au courant de ce qui s'était déroulé ici. Ce sont des fermiers de l'abbaye d'Ardennes qui vont apprendre à son fils ce qui s'est passé à l'abbaye.
Un retour à l'abbaye qui nous est raconté par Gabriel Vico.
Madame Vico-mère, comme elle avait été témoignée au procès de criminels de guerre, elle l'avait vu parce qu'autrement elle ne le connaissait pas. Et elle aperçoit Kurt Meyer. Oh, elle avait 2 de ses fils qui étaient là, alors ils sont allés tout de suite l'arrêter et lui parler. Il a dit à Jean-Marie, oh, mais je ne l'ai pas su et de toute façon, je voulais couvrir mes hommes. C'est tout ce qu'il a dit.
L'endroit où les cadavres ont été découverts est devenu au fil du temps un jardin du souvenir canadien. Gabriel Vico y avait installé un livre d'or et elle se souvient d'un message en particulier.
Je prenais la feuille avec toutes les signatures, je les photocopiais et je les remettais. Ce qui m'a permis ce soir-là de voir une signature, Kurt Meyer, enfin, en bas de une grande signature, écrite en allemand. J'ai tout de suite pensé que c'était le fils de Kurt Meyer. Dans le texte, il met que son père n'avait jamais raconté, n'avait jamais parlé, mais qu'il venait là et qu'il était plein de compassion pour ce qui s'était passé là, oui. Oui, c'est un beau témoignage, oui. Oui.
Beaucoup de camarades de ces soldats canadiens sont venus ici pour leur rendre hommage.
Madame Vico les recevait, elle en a fait des tasses de thé, parce qu'ils venaient nombreux.
Le colonel Campbell est particulièrement touché par ce drame. Il décide d'enquêter sur l'histoire de ces 20 jeunes Canadiens et de la raconter à travers un livre. Il fait d'ailleurs en sorte qu'une stèle avec un petit monument fait de pierre de l'église abbatiale soit érigée en 1984. Et pour que leur histoire reste dans la postérité et soit connue des visiteurs, Gabriel Vico a créé des panneaux à l'effigie de ces soldats canadiens.
Ce qui est assez formidable, c'est parce que souvent, sur les monuments, on a des noms, mais c'est rare d'avoir l'histoire de chacun de ces morts. C'est assez rare.
Toujours impliqué dans la transmission de la mémoire, Gabriel Vico me montre sur une feuille les portraits de ces jeunes soldats exécutés et elle s'arrête sur un en particulier.
Ah oui, regardez sa bonne bouille en plus. ce petit polar là.
Ce petit polar, c'est le caporal Georges-Édouard Pollard. Tout porte à croire qu'il a été assassiné et enterré ici, mais c'est le seul dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis.
Il avait triché sur son âge. Il y en a plusieurs Canadiens, parce qu'ils étaient tous des volontaires. Et j'ai un écrit de son oncle. Il avait qu'une peur terrible, c'est que sa mère le dénonce. Et elle ne l'a pas dénoncé. Mais alors, la pauvre mère, elle l'a attendu toute sa vie.
Désormais, ce jardin du souvenir canadien est un lieu paisible où se déroule chaque année une cérémonie. Stéphane Lehellé est le maire de Saint-Germain-la-Blancherbe.
C'est un lieu très fréquenté, hein, surtout cette année, bien sûr. C'est un lieu où passent beaucoup de gens qui s'intéressent au débarquement, et principalement les Canadiens, en général, dans les circuits qui sont proposés aux Canadiens qui viennent ici sur les places du débarquement. L'abbaye d'Ardennes est incontournable. Hein. Il faut qu'ils viennent au jardin mémorial pour découvrir les lieux et se voir raconter ce qui s'est passé.
Ça, c'est pour les jardins, mais cette abbaye touchée à plusieurs reprises par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-elle devenue ? Au début des années 90, elle est acquise par la région Basse-Normandie qui poursuit les travaux de restauration. Et quelques années plus tard, l'IMEC, l'Institut Mémoire des éditions contemporaines s'y installe. Mais l'IMEC, c'est quoi ? Explication avec Cyril de Cizancourt, chargé du développement du public.
C'est une association, d'abord, à but non lucratif, qui est fondée dans les années 80 pour proposer aux maisons d'édition, aux éditeurs, aux écrivains, de réunir en un même endroit des archives qui étaient vouées à la dispersion, voire à la destruction. Pour faire court, dans les années 80, il y a un certain nombre de mouvements économiques, des entreprises qui fusionnent, etc., y compris dans le monde de l'édition. Et les archives, donc toutes les coulisses de la grande édition à la française, sont menacées de destruction parce qu'elles vont déménager, qu'elles prennent trop de place et que, pour faire simple, on ne sait plus très bien quoi en faire. C'est l'initiative de quelques personnalités du monde de l'édition, des intellectuels, des chercheurs, qui vont proposer aux maisons d'édition, donc Hachette, Gallimard, les grandes maisons d'édition françaises, de leur confier leurs archives qui vont être classées pour eux, qui vont être conservées dans le temps et qui vont être mises à la disposition de la recherche.
Et c'est à souligner, l'abbaye d'Ardennes est un lieu désormais accessible à tous.
L'IMEC est souvent perçu comme une asso parisienne qui est arrivée et qui a un truc un peu d'intello, de cultureux, qui est là-haut sur sa colline derrière sa grand mur d'abbaye. Dans les faits, et pour le vulgariser encore plus, l'IMEC, c'est un centre culturel à 15 minutes du centre-ville de Caen qui vous propose des événements gratuits toute l'année, des expositions gratuites, un coin librairie, une bibliothèque, des magnifiques jardins et un petit café en été dans lequel vous êtes en train de me poser quelques questions.
De quoi insuffler une belle dynamique dans l'agglomération cannaise.
C'est une richesse pour la commune, c'est un centre international de rencontres. Il s'y passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, des conférences, des expositions, voilà. Donc c'est un lieu important pour la vie culturelle cannaise.
L'abbaye d'Ardennes, un lieu de violence devenu lieu de culture. C'est la fin de ce podcast. Nous nous quittons avec une dernière anecdote de Gabriel Vico, toujours ému au moment d'évoquer l'histoire du site.
Alors, il y a quelque chose de touchant et je trouve d'assez mystérieux. C'est-à-dire que les petites personnages qui ont permis de découvrir l'endroit où il y en avait le plus, qu'on a retrouvé qui poussait n'importe où, eh ben, les personnages, elles arrivent toujours, tous les ans, à se faufiler. Cette année encore, hein, elles étaient dans le lierre qui est à l'entrée, là, il y avait encore des personnages. Vous vous rendez compte ? C'est pas croyable, c'est bouleversant. Hein.
80e D-Day, 9 sites qui ont changé l'histoire.